Et prêcher maintenant parce que je vais vous parler de la Sainte Seine. Non, c'est déjà arrivé. Mais c'est vrai qu'on ne prêche pas souvent sur la Sainte Seine, et d'autant plus de là où je vais partir. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc, ensemble, nous allons pouvoir lire un texte, Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse 14. Voilà, il est affiché. Le verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et bénit Abraham. Et il dit, « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham, parce qu'en ce moment il est encore Abraham, lui donna la dîme de tout. Alors dans ce texte, nous avons tous les éléments d'une sainte scène. Et nous trouvons tout cela dans l'Ancien Testament du temps d'Abraham. Alors une sainte scène du temps d'Abraham, c'est impossible. Vous n'avez pas réagi comme ça? Ça devrait. Parce que c'est impossible. C'est Jésus lui-même qui a institué la Sainte Seine dans le Nouveau Testament. Alors, comment parler de Sainte Seine du temps d'Abraham? Un homme a écrit ces paroles. Je le cite. Je répondrai par une image, celle d'une ombre sur la route. Jésus-Christ est si grand qu'il remplit toute la terre et toute l'histoire. Et son ombre se projette déjà sur l'Ancien Testament. Nous ne pouvons comprendre l'Ancien Testament si nous n'y trouvons pas l'ombre de Christ. Amen. Alors à plusieurs reprises, nous trouvons Christ dans l'Ancien Testament. Bien sûr, l'œil naturel ne le voit pas, mais l'œil exercé par le Saint-Esprit, l'intelligence renouvelée, par le Saint-Esprit, eh bien, va le reconnaître, va discerner que, tiens, là, il est question de Jésus. Ah là, ça le concerne. Ça concerne le Fils de Dieu. Alors, que vient faire cet étrange personnage? Melchisédek. Un jour, j'étais jeune, converti. J'avais fait part à mon pasteur de l'appel que j'avais reçu de la part de Dieu. Et je vais le voir, et je lui dis, dites-moi, pasteur, qui c'est ce Melchisédek? Alors il m'a répondu, tu as le Seigneur? Oui. Tu as ta Bible? Interroge le Seigneur. Bon, il m'a forcé comme ça à creuser. Hein. Alors, ce Melchisédek, hein, il est quoi? Il est roi de Salem. Melchisédek signifie roi de justice. D'accord? Et Salem signifie paisible, paix. Alors ce mystérieux personnage sorti d'on ne sait d'où, hein, puisqu'il n'a pas de généalogie, il n'est pas fait mention de sa naissance non plus, c'est un roi. Et quel roi? Roi de justice, et comme il est roi de Salem, roi de paix. Eh bien ce roi c'est déjà Jésus, c'est le Christ, c'est mon sauveur. C'est votre sauveur. Amen. Il nous dit qu'il était au commencement de toutes choses sur le globe terrestre jouant quand Dieu créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors Salem, c'est la première mention de Jérusalem. Des tablettes ont été découvertes en Égypte, elles ont confirmé l'existence de cette ville à cette époque-là. Ces tablettes, ce sont des lettres échangées entre les rois d'Égypte et les divers souverains de Palestine. Elles datent du 15e siècle avant la venue de Jésus. Alors Jérusalem signifie littéralement fondement de paix. Eh oui, possession de la paix. Ça c'est Jérusalem. Alors de fait, quand on en analyse tout cela, on a vite fait le rapprochement justement avec le Nouveau Testament, où il nous est parlé de Jésus, de Jérusalem, de pain, de vin. Melchisédek, il fait apporter le pain et le vin image du sacrifice de Jésus. Et il prononce ces paroles, on l'a lu au verset 14 de Genèse, verset 19 de Genèse 14, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Alors, ce Dieu qui se manifeste auprès d'Abraham, tout simplement, eh bien, c'est celui qui est descendu du ciel. C'est le Dieu créateur qui s'est manifesté dans la faiblesse humaine jusqu'à se laisser briser, crucifié sur le bois de la croix. Il rajoute au verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a la promesse de victoire. Et nous le savons, par Jésus, nous avons obtenu cette victoire. Amen. L'adversaire, lui, a été brisé. Il est vaincu. Et je ne sais pas comment tu le vois ce matin, mais tu dois le voir comme cela. Il a été vaincu sur le bois de la croix. Alors, dans cette scène, nous avons deux choses. Premièrement, le Dieu qui s'offre à nous, c'est le Très-Haut lui-même qui s'offre, tout simplement, en Jésus-Christ. Également, la deuxième chose, c'est un gage de victoire. La Sainte Cène, c'est un mémorial du sacrifice de Jésus. Donc, la victoire est déjà acquise. Amen. Jésus a triomphé sur le bois de la croix. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, à la lumière du Nouveau Testament, celle qu'a enseigné le Seigneur Jésus à ses disciples. Je vais faire trois lectures. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et troisième lecture, Matthieu chapitre 20, verset 20. La mère de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » ?»« Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Dans ce dernier texte, Jésus répond à une maman, Madame Zébédée. Je dirais que cette femme, elle ne manque pas d'aplomb. Hein? D'accord ? Ordonne que mes deux fils, voilà, un à ta gauche et un à ta droite. Ouh ! Alors, la réponse des fils, elle n'est pas mal non plus. Hein? Quand il dit, pourriez-vous boire la coupe que je dois boire ? Parce que vous allez boire la même. Hein? Et surtout si vous voulez être quelque part aussi haut. Alors, ils répondent au verset 21, nous le pouvons, nous en sommes capables. Ah ouais, ok. Alors, Jésus répond, en effet, ouais, vous boirez la coupe. Mais si vous saviez ce qu'elle contient, si vous saviez ce qu'il y a dedans, vous seriez un petit peu moins emballé et plus réservé. Parce qu'on va le découvrir ensemble, hein, c'est dans cette coupe ce qu'il y a. Un jour, Jésus s'assit avec ses disciples. Il met une coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il rajoute, buvez-en tous. Alors dans cette coupe, bien sûr qu'il n'y a que du vin. Mais que représente cette coupe? Qu'est-ce qu'elle représente? On l'a dit, on l'a lu. Elle représente l'amour du Seigneur. Et buvez-en tout signifie, chacun d'entre vous, vous allez en boire. Et en plus, vous en boirez tout le contenu, c'est-à-dire que vous la viderez. Alors cette coupe, eh bien, elle représente la mort, la crucifixion de Jésus, mais aussi tout ce qu'il a vécu. C'est-à-dire tout ce qu'il a dû endurer. Alors, je vous pose la question, êtes-vous capable de boire cette coupe, comme Jésus l'a posé cette question au fils de Madame Zébédée, au frère Zébédée. Alors, dit autrement, êtes-vous capable de participer à mes souffrances? Pouvez-vous supporter qu'ils vous fassent ce qu'ils m'ont fait, ce que j'ai dû subir? Pouvez-vous me suivre dans la communion de mes souffrances, dit autrement également? Pouvons-nous suivre Jésus dans ses souffrances? Alors, dans cette coupe, bien sûr, il y avait du vin, mais il y avait aussi des expériences amères. Il y avait le rejet, la persécution, la souffrance, l'incompréhension, la solitude, le rabaissement, l'humiliation, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, nous pouvons subir les mêmes choses. Allons-nous boire la coupe jusqu'au bout? Ou à un moment donné, repousser ces choses? Jésus l'a accepté entièrement. Il a accepté le sacrifice de la croix. Il a accepté par le sacrifice de la croix de se charger de nos péchés et de nos iniquités. Je rappelle, c'était le seul pur que la terre ait connu. Il n'a jamais commis de péché. Il a été tenté comme nous, mais il a résisté. Il est allé jusqu'au bout dans l'obéissance. Et lui, justement, est allé jusqu'au bout. Il n'a pas rechigné, il ne s'est pas rebellé, mais au contraire. Alors sommes-nous capables de boire cette coupe? Certains peuvent dire dans leur cœur, « Oui, Seigneur, je suis capable de devenir participant de tes souffrances. » Alors, si je prends cette coupe, je dirais, avec une telle disposition de cœur, eh bien, c'est un témoignage. C'est une promesse au Seigneur que je ne boirai pas seulement le vin, mais que je suis prêt, tout simplement, à accepter les conséquences de mon acte. Est-ce que vous saisissez jusqu'où ça va? C'est pas simplement lever le coude. Eh oui. Et puis boire un peu de vin. Alors d'un côté, il y a la facilité, un geste, hein, boire un liquide. Et en même temps, il y a ce que cela représente. Et ça peut être terriblement amer. Terriblement amer. Alors la pensée de Jésus pour cette coupe, justement, buvez la coupe. Buvez-en tous, videz-la. Que chacun devienne participant de cette coupe. Mais buvez tout ce que j'y place. Même si c'est terriblement amer, il va falloir la boire. Si justement vous vous recommandez de moi, si vous voulez être participant, il va falloir boire jusqu'au bout. L'expérience de la croix était terrible. Elle était dure. Il était même lâché, excusez-moi pour le terme, lâché par le Père. Il était seul, mais il l'a bu. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Galates chapitre 6, verset 14, ne le cherche pas, « Je me glorifie de la croix de Jésus, du Christ. Je me glorifie. » Alors la gloire qu'exprime Paul, c'est la gloire justement d'être crucifié avec Christ. Amen. Alors, quand nous prenons un peu du contenu de cette coupe, nous témoignons finalement notre bonne volonté d'être crucifié avec Christ. Et je dirais, voilà la véritable signification de la Sainte-Cène. Alors certains versent quelques larmes quand ils participent au repas du Seigneur. Mais le Seigneur, lui, préfère que nous buvions cette coupe en expérience. Quand nous sommes prêts, quelque part, à nous laisser rabaisser par les hommes. Quand nous sommes, eh bien, les méprisés de la société, les rejetés, mais que nous gardons le cap, que nous gardons les yeux sur Jésus, c'est ce qui va le glorifier le plus. Amen. On peut verser des larmes aussi. Mais on en versera si ce n'est pas déjà fait. Mais ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, êtes-vous capable de boire cette coupe? Certains l'ont dit. Les filles de Zébédée déjà. Mais d'autres? Seigneur, s'il faut aller jusqu'à la croix. Hein, que dit Pierre? Matthieu chapitre 26, verset 24. Il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Formidable, hein? Pierre est en train de dire, moi je bois la coupe. Par avance, je suis prêt, je te le dis. Puis est venu le moment de l'arrestation de Jésus. Et au moment de l'arrestation de Jésus, tous les disciples ont pris la fuite malgré qu'ils avaient dit, nous disons la même chose. C'est-à-dire que nous irons avec toi, on ne te reniera pas. Pierre l'a suivi. Un peu en retrait, à distance. Et lorsqu'il est dévoilé et reconnu par une simple servante, alors qu'il se chauffait autour du feu, qu'il regardait de loin là, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il nie la chose. C'est-à-dire qu'il renie le Seigneur, il prend la fuite. Et là, je ne sais pas si vous réalisez combien cette coupe est amère. Parce que là, il est en train de boire la coupe, mais il ne va pas jusqu'au bout, puisqu'il renie le Seigneur en chemin. Pourtant, Pierre avait été averti par le Seigneur, Matthieu 26, verset 34. « Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Puis Pierre entend le coq. « Ah là là !» Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu. Il est dit qu'il s'est mis à pleurer amèrement. C'est horrible. Horrible. S'il avait pu se mettre dans un trou de souris, il l'aurait fait, mais il ne pouvait pas. Et même dans un trou de souris, eh bien, ça aurait été pareil. Il aurait vécu la même chose. C'était horrible. Pierre avait dit qu'il pouvait boire cette coupe. Et quelque part, il ignorait ce qui était dans cette coupe. Et là, il commençait à réaliser quel était le contenu. Il était en train de boire la coupe du Seigneur. Alors, je ne sais pas. Certainement, vous avez vécu déjà des expériences difficiles. Je souhaite pour vous que vous ayez gardé le cap. Que vous soyez allés jusqu'au bout, sous le regard du Seigneur, sans avoir à rougir. Amen. Je ne sais pas si vous savez, cette coupe, Pierre l'a bu. Elle a été terriblement amère à la fin de sa vie. Qu'il est mort, il a fini sa vie sur une croix, la tête en bas. Horrible. Dans Jean chapitre 6, verset 53, que nous avons lu, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous rendons témoignage que nous sommes prêts à la communion de ses souffrances. Vous allez réfléchir ce matin en prenant le pain et le vin. Hein? Lorsque Jésus est allé prêcher à Nazareth, quelle a été la réaction des habitants de Nazareth? C'est le fils du charpentier. Quelque part, mais pour qui il se prend? C'est le fils du charpentier, sa mère c'est Marie, nous connaissons ses frères, il ne peut pas être un prophète, nous étions à la même école, nous avons grandi ensemble. Et par mépris, par méchanceté également, il voulait le précipiter en bas de la montagne. Plus tard, quand Jésus est entré dans Jérusalem, les gens étendirent leurs vêtements, ils ont fait des tapis de feuilles, de branches de palmiers, ils criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » On lui jetait des fleurs formidables, les gens chantaient, c'était la fête ! C'était la fête. D'ailleurs, on l'appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, quelque temps plus tard, ces mêmes personnes étaient de nouveau réunies. leur chant était quelque peu différent. Pilate, qui était le chef de cérémonie, demandait « Que ferais-je de Jésus ?» Puis il a posé la question « Que ferons-nous de Jésus ?» Alors ces mêmes personnes qui criaient tout simplement « Hosanna au fils de David » à un moment donné criaient « Crucifie-le !»« Libère Barabbas !» Entre parenthèses, « Libère le meurtrier !» Et crucifie Jésus, l'homme de bien. Terrible, hein? C'est la faiblesse humaine. Elle nous fait réagir ainsi. Alors Jésus a été rejeté. Il a été discrédité. Il a été abandonné par ses amis les plus proches. Par ceux qui auraient pu lui apporter un secours. Manger sa chair, bien sûr que c'est dur. Ça passe difficilement. Mais Jésus n'a pas protesté. Il s'est laissé arrêter comme une brebis muette. Il n'a rien dit devant ceux qui le tondaient. Aujourd'hui, participer à ses souffrances, c'est expérimenter ce que justement le Maître a vécu, ce que Jésus a vécu. Je rappelle, il a été rejeté par les bénéficiaires, il a été renié. Il a subi tout simplement des complots. Il a été livré comme un vulgaire meurtrier. En guise de couronne, il a reçu sur sa tête des épines. Il a été flagellé. À ce moment-là, c'était des courroies de cuir. Et au bout, il y avait des billes de plomb qui étaient reliées à ces courroies de cuir. Et ça pénétrait dans la chair. Puis il a été cloué sur la croix. Et lorsque je participe justement à la scène du Seigneur, voilà à quoi je participe. Ce n'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose, je dirais, de marquant. Je participe au repas du Seigneur. En sortant, je peux subir l'humiliation, mais je vais l'accepter. Parce que si on me rejette, si on m'humilie, si on me fait du mal, si on dit du mal de moi, c'est parce que j'appartiens au Seigneur. Et ça, j'ai besoin de me le rappeler. S'ils me font cela, c'est parce que quelque part, ils sont les jouets du diable. Et moi, je ne veux pas quelque part donner de droit et d'accès à l'ennemi de mon âme. Je veux au contraire glorifier le Seigneur. Amen. Alors, je prends ce texte des Hébreux, je vais conclure. Après, on prendra le repas du Seigneur. Les frères vont se mettre en place, bien sûr, hein, les frères désignés. Hébreux 12, 2. Ayant les regards, ou ayons, moi je transforme comme ça, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors qu'est-ce qui a permis à Jésus de tout supporter? C'est de regarder plus haut. Amen. C'est de regarder au Père. Dieu nous a donné son Fils. On n'est pas seul. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Dieu nous a tout donné. Alléluia. Réjouissons-nous d'être appelés enfants de Dieu. Vous savez, quand on appelait les premiers chrétiens, c'était méprisant. On les appelait les chrétiens pour se moquer d'eux. Alléluia. Mais maintenant, quand on m'appelle chrétien, alléluia, c'est une fierté. Un jour, on m'appelait comme ça, mes collègues de travail. Jésus ! Mais il croyait me faire du mal, mais il me faisait un bien extraordinaire. Bon, après, ils ont arrêté. Parce qu'ils ont vu que je ne me sentais pas agressé, au contraire. J'avais le sourire, j'avais la banane, comme on dit. Hein. Voilà, j'étais heureux. Il m'identifiait à Jésus. Formidable. Bien sûr, je savais que je devais m'attendre aussi au retour de Manivelle. Et je l'ai eu. Mais j'ai gardé le cap. Amen. J'ai gardé mon sourire, mon assurance. Le Seigneur est avec moi. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia! Alors, certains, parce qu'il a gardé le cap jusqu'au bout, peuvent dire, mais il était fils de Dieu, Dieu lui-même. Facile pour lui. Vous croyez? Vous croyez que c'était facile? Non. Il était aussi parfaitement homme. Il a eu faim, il a eu soif. Il était fatigué. Il a pleuré. Et oui. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que c'est en vue de la joie qui lui était réservée qu'il a accompli tout cela. En vue de la joie qui lui était réservée. Et cette joie, c'est la joie de nous voir ici ce matin. Amen. Rassemblés en son nom. Alléluia. De nous entendre également, cette joie de nous entendre. Invoquer son nom, le bénir, l'élever. Et lui dire, Seigneur, je te suis. Amen. Je participe à tes souffrances. La joie également de savoir que nous désirons tout simplement prendre ce repas ce matin. Alléluia. De le prendre dans le bon sens. Dans la communion. Même de ses souffrances. Alors ce matin, en prenant cette coupe, que la prenne non comme un simple souvenir, ça pourrait être comme ça, mais comme participant à ses souffrances, et surtout que ça ne devienne pas, vous savez, une habitude, une routine. C'est l'heure de la Sainte Cène. C'est pour ça que j'ai préféré changer ce matin, la prendre avant, ou plutôt après, après le message, hein, prêcher avant. Ça s'imposait, mais c'est bien. Amen. Quand je viens le dimanche matin, je viens pourquoi ? Quand vous venez le dimanche matin, c'est pourquoi ? Pour louer le Seigneur. Pour l'élever au rang qui est le sien. Alléluia. C'est le maître de tout. Vous vous rendez compte ? Il m'aime. Moi, Bernard. Non, mais c'est sérieux. Il m'aime. Je sais qu'il y en a qui m'ont détesté dans ma vie. Hein, mais lui, il m'aime. Et c'est le plus important. Réalise que Jésus t'aime. Que tu as de l'importance à ses yeux, qu'il ne veut pas te laisser comme ça. Tu n'es pas encore engagé. Engage-toi avec Jésus. Décide-toi pour aller de l'avant avec lui. Il en réserve des choses extraordinaires. J'ai vécu des choses extraordinaires jusqu'à présent. J'en vivrai encore. Hein. Je ne pense pas qu'il me prenne demain, ce soir. Je ne sais pas, non, mais s'il me laisse un peu vivre hein, encore, je sais que je vivrai encore des bonnes choses avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de Dieu ? Mais rien. Il peut tout. Il peut tout. Alors que moi, je puisse glorifier son nom. Amen. On se lève ensemble ? Venez là, les chantres. On va prendre le repas du Seigneur. Alléluia. On continue de louer et d'adorer notre Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui m'a choisi. Je fais partie de ceux que tu as choisis, Seigneur, et ce matin, mon cœur se réjouit. Je me réjouis de voir, Seigneur, mes frères et sœurs là. Ils sont venus, Seigneur, tout simplement pour célébrer ton nom. Ce matin, nous allons prendre ensemble le pain et le vin. Et nous voulons prendre cette coupe également avec cet état d'esprit. Ce matin, tu me rends participant de tes souffrances, de tes douleurs, s'il le faut, oui. Mais je sais que tu me rendras capable et que tu rendras capable au moindre de tes enfants, si je peux me dire le moindre, parce que nous sommes tous égaux devant toi. C'est avec toi et toi seul que nous pouvons aller de l'avant. Merci, notre Dieu, de nous visiter, de nous imprégner de ta présence. Et à toi la gloire. Amen. Amen.